N'hésitez pas, si les gens veulent poser des questions, c'est le temps, parce que l'émission se termine à 4 heures. Donc, Paul ne sera pas toujours ici. Là,
Donc, peu 40 minutes, là, pour ceux qui sont,
c'est
dans,
ça,
là,
fait
qui sont
que,
pas dans notre zone.
Si vous avez des questions, moi, j'ai débattu avec Paul les points qui m'énervaient. Entre autres, je trouvais ça pas mal. Là, j'ai lu le mémoire, puis je trouvais ça totalitaire un petit peu.
Ouais.
Parce qu'il ne laisse pas la place aux gens d'avoir leur couleur. Moi, ça me fait rien qu'il y ait des... Excusez le mot, là, qu'il y ait des catholiques à côté de moi, qu'il y ait des prêtres à côté de moi, qu'il y ait des musulmans à côté de moi. Ce que je veux, c'est être respecté, puis respecter les autres. Ce que j'aime pas, c'est quand on rentre dans ma bulle, puis qu'on dit c'est ça l'unique chose. Puis, en lisant la mémoire, j'ai dit, mon doux, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais avec d'autres mots, avec d'autres, des façons subtiles. Ils veulent nous donner une façon de penser. Fait que, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis sûre que le débat est lancé dans notre société. Il va y avoir d'autres choses certaines parce que les gens qui sont fondamentalement croyants vont se débattre dans ça, puis ils vont dire « Hey, on est là, wow! »
Mais il faut dire que le processus qu'ils ont utilisé est très rusé. Entre moi, c'est pas comme s'il était pour attaquer la Bible. Disons, à l'époque communiste, là, quand les communistes sont rentrés en Russie, entre autres, ils ont carrément attaqué tout ce qui était chrétien, les églises, ils ont vidé des églises, ils ont mis des prêtres puis des pasteurs en prison. Ça a été très violent, très brutal et puis très explicite. Le processus dans lequel on est pris ici est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on marginalise tout ce qui est vraiment judéo-chrétien, là, tous les concepts, par exemple, du mariage, les concepts là, sur le plan de la sexualité, les conceptions judéo-chrétiennes dans la sexualité. Et puis, on tranquillement, plutôt que, par exemple, dans le cas du mariage, il y a un gros débat sur la définition du mariage en Occident, là, en France, ici au Québec, un peu partout dans les pays développés. Et puis, on veut ouvrir le mariage pour que le mariage gay, par exemple, soit accepté. Mais c'est moins brutal qu'une approche où qu'on voudrait détruire l'institution du mariage. Là, tout le monde se réveillerait et a dit « ça n'a pas de bon sens ». Mais c'est là, ça. Ce qu'on a pris comme stratégie, c'est plutôt de dire « on va changer, on va ouvrir la définition du mariage pour que les couples gays puissent être admis ». Mais ça, c'est l'ancienne définition du mariage était enracinée dans la vision du monde judéo-chrétien, dans la parole de Dieu, un homme, une femme, de façon permanente. Et puis là, aujourd'hui, on en fait une institution que on peut, comme un contrat de chauffage ou un contrat de service de quelconque, on peut briser ce contrat-là comme ça nous tente. Et puis, on peut aussi avoir ça avec un partenaire de n'importe quel sexe, de même sexe, si on veut aussi. Fait que ça, et on fait ça au nom de l'ouverture. Fait que ça pour les gens qui ont des concepts, des croyances plus chrétiennes, ben c'est cette manière-là est plus subtile. Là. C'est un peu comme la vieille histoire là, du grenouille dans l'eau qu'on fait bouillir. Si on met une grenouille dans un chaudron et puis on monte tranquillement la température de l'eau, la grenouille va trouver ça, que ça réchauffe, mais il s'habitue à la température et puis finalement, à la fin, ben, tu as une grenouille bouillie qui est cuite. Tandis que tu prends la même grenouille et puis si tu mets dans l'eau bouillante directement, là, la grenouille va réagir parce que le contraste de température est tellement élevé que la grenouille va faire un effort violent pour s'en sortir parce qu'il va se rendre compte du contraste. Mais dans la situation actuelle, c'est un peu comme la grenouille qu'on fait tranquillement bouillir, qu'on met dans l'eau tiède et puis la grenouille est bien. Puis là, tranquillement, ça chauffe de plus en plus. Puis à la fin, ben, tu as une grenouille bien cuite. All done. Ça fait que... On me posait une question sur mon accent. Là. Moi, j'ai été élevé dans les milieux anglophones, donc ça fait un accent un peu bâtard, un peu mélangé. J'ai un peu de résidus d'influence anglophone, et puis peut-être que les gens en Europe là, vont peut-être pas voir, ils vont juste trouver que j'ai un accent québécois, mais ici au Québec, on me demande parfois, viens-tu de la Abitibi ou de l'Acadie ou de quelque part ailleurs, mais dans le fond, là, c'est ça, c'est des résidus d'influence culture anglophone là, dans lesquels j'ai été élevé jusqu'à l'âge de à peu près de 13 ans environ. Là. Fait que c'est un peu pour ça.
En tout cas, Paul, je te remercie d'être venu nous voir.
Oui.
Puis j'espère que les gens vont aller sur ton site.
Oui,
peux-tu nous rappeler ton adresse?
Oui, c'est le www.samizdat, c'est samizdat.qc.ca. Bon, on me demande aussi, c'est quoi Samizdat? Ça vient d'où ce mot-là? Là? En fait, c'est un mot russe qui date de l'époque soviétique, quand les communistes étaient au pouvoir. Et puis, il y avait de la censure. Donc, tout ce qui était communiste était diffusé par la presse, par le cinéma, par tous les moyens. Ouais. Et si quelqu'un avait un point de vue différent, que ce soit un point de vue chrétien ou un point de vue sur les questions politiques, s'il voulait l'exprimer, il n'y avait pas accès à ces institutions publiques. Donc, il devait utiliser ce qu'il appelle la presse alternative. Et là, c'est de là que ça vient le mot samizdat. Ça veut dire presse alternative. Ce qui fait que les chrétiens qui voulaient publier des témoignages ou carrément avoir accès à la Bible, ils devaient soit écrire ça sur une dactylo à la maison. Les photocopies, ça n'existait pas, ou sinon c'était très contrôlé en Russie. Et puis les ordinateurs portatifs, et puis les ordinateurs, puis les imprimantes là, personnelles, ça n'existait pas non plus. Là. Donc il fallait diffuser ça par des contacts en qui on avait confiance. Et puis les chrétiens exploitaient ça. Fait que c'est un peu pour honorer les chrétiens qui ont vécu à cette époque-là un peu clandestine en Russie. Et puis qui ont eu le courage de se tenir debout puis d'offrir leur témoignage là, à cette époque-là. Ça fait que c'est un peu en référence à ça. Fait que pour notre époque présente, là, Samizdat, c'est pour offrir un point de vue alternatif aux grands médias, aux grandes institutions, un point de vue évangélique sur la situation actuelle dans toutes sortes de domaines. Je touche les arts, je touche toutes les sciences, le domaine des sciences, puis le débat création évolution. J'ai une section qui s'appelle Vie chrétienne, donc il y a des témoignages, des biographies, un peu des trucs sur la théologie, la vie pratique chrétienne, là, un peu de tout.
Donc, j'invite les gens à aller voir.
J'ai une réflexion.
Oui.
Tu permets que je prenne le micro 2 minutes?
Ah, oui? OK,
vas-y. Ah, j'ai une réflexion d'une sœur qui dit « Je suis choqué de savoir que nos présidents ont trempé dans des choses infectes, pour être poli, mais au nom de Jésus, je bénis mon président actuel et il se trouve dans les mains de Dieu. » Amen.
C'est ça.
C'est bon, ça.
Ici au Québec, là, je dirais, cette tendance de déchristianiser l'éducation, entre autres, c'est quelque chose qui est là. C'est une tendance qui existe depuis très longtemps, depuis la Révolution tranquille, depuis les années 60. Et puis, lorsque les gouvernements dans la province du Québec ont changé, cette tendance-là n'a pas changé. Ça a continué. Donc, ça dépend pas vraiment des partis politiques, mais ça dépend des gens qui sont dans le ministère de l'Éducation et qui veulent continuer de faire avancer, de continuer de vider tous les vestiges d'influence judéo-chrétienne qui peut rester. On a eu, il y a quelques années, on a détruit, par exemple, une chose qui existait dans la Constitution, là, ben, en fait, l'acte d'Amérique du Nord britannique, qui faisait qu'on avait droit à des commissions scolaires protestantes et catholiques. C'est et ça, on a brisé ça il y a quelques années. Et puis, les écoles qui existaient chez les évangéliques aussi ont été jusqu'à la Cour suprême. Et puis, ces écoles-là ont été détruites, ces institutions-là ont été démantibulées aussi. Et puis, ça, c'est. Donc, ce programme-là, ça fait partie d'une suite, d'une initiative à long terme. Ça date pas d'un an ou deux, là.
Faut ça voir date pas d'un matin.
C'est comme la grenouille dans l'eau qui se fait cuire tranquillement. L'eau, au début, elle est froide. Mais là, ça devient de plus en plus bouillant. Il reste à savoir si la grenouille va sauter de l'eau ou elle va juste faire bouillir complètement. Mais pour le moment, on a tendance à se laisser bouillir. Puis même les évangéliques, on a un peu des fois la tête dans le sable parce que tout ce qui se passe pas à l'intérieur des quatre murs de nos églises, c'est comme si ça ne nous concerne pas. C'est comme si la vie chrétienne, ça se passe juste dans les quatre murs de l'église. Et pourtant, Jésus nous a appelés à être le sel de la terre. Ça implique d'avoir une influence chrétienne dans tous les aspects de la vie sociale, dans notre vie à nous autres. Et puis, Jésus nous dit, nous avertit, si le sel de la terre ne fait pas sa job, il va être bon à quoi? Il va être bon à jeter dehors et fouler aux pieds. Fait qu'on va avoir des comptes à rendre sur la liberté qu'on a dans nos sociétés, en Occident, ici au Québec, aussi les évangéliques francophones en Europe aussi. Est-ce qu'on est le sel de la terre?
Oui.
Je voudrais remercier Paul d'avoir pris du temps de nous parler de ce qu'il a vécu ces dernières semaines. J'invite les gens de toute confessionnalité, de toute croyance, à être éveillés sur ce qui se passe dans leur province, dans leur ville, pour exprimer ou pour...
Là, on a une bonne question.
T'en as une, là?
Oui. C'est Sabine qui demande « D'où tenez-vous ces informations cachées? »
Bon, là, c'est tout simplement, là, c'est qu'à partir de... Disons, j'ai une formation en anthropologie sociale, j'ai une maîtrise, et puis je suis aussi écrivain, là, donc j'ai fait des recherches. Là, on peut regarder, par exemple, j'ai un article sur Samizdat là, qui regarde... qui s'appelle le mythe de l'éducation laïque. J'ai pas toutes les coordonnées devant moi, là, mais on pourra trouver, on pourra mettre ça sur le site web là, de la radio ici. Là. Et puis, dans le fond, là, j'ai aussi fait des recherches sur la religion postmoderne. Mon dernier livre, Fuite de l'absolu, là, ça examine c'est quoi les croyances de base de la religion postmoderne, qui propage ça. Et puis, c'est quoi les conséquences éthiques, là? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans la société dans laquelle on vit? C'est comme quand les nazis ont pris le pouvoir, là, tout le monde pensait que Hitler était un gentil bonhomme qui était pour sortir de l'Allemagne là, de tous ces problèmes économiques qu'il y avait. Puis même ici au Québec, il y avait des artistes là, comme Jean-Louis Loup, qui, quand il était jeune, il a appuyé les nazis. Et puis, en France, on a vu la même chose. Là, il y avait des gens qui... Fait qu'il y a des choses qui ont... des apparences, tant que ça n'a pas eu le temps là, de développer toutes les conséquences, quand les gens ont laissé ces systèmes de pensée-là, on n'a pas encore pris le pouvoir, on ne peut pas vraiment tout deviner où est-ce que c'est que ça va aller. Mais donc, on a ce système-là qui va imposer une manière de penser unique, et puis finalement, ça détruit, sur la place sociale, ça détruit toute la liberté religieuse, ça détruit certainement la liberté des parents. La liberté des parents...
C'est ça.
Est complètement ignoré dans ça. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que les intellos universitaires, ils savent ce qui est bon pour les gens, puis les gens ordinaires n'ont pas un mot à dire sur ce qu'on va enseigner à leurs enfants. Parce qu'on connaît mieux qu'eux autres qu'est-ce qui est meilleur pour leurs enfants. Fait que ça nie complètement l'autorité parentale. L'État va régler ça. L'État va dire, va régler...
C'est ça. C'est ça qui est épeurant aussi.
Oui, ben c'est une attitude c'est une attitude un peu qui pousse la pensée unique. C'est une attitude là, qui veut exploiter les institutions publiques pour passer leur truc plutôt qu'aller sur le plancher des vaches puis dire bon, on va essayer de convertir les gens à notre manière de penser et puis faire compétition. Parce que c'est dur, là. Si t'es sur le plancher des vaches, si t'as pas de position privilégiée, ben là, si tu fais des porte-à-porte comme les témoins de Jéhovah, combien que tu vas faire de convertis? Témoins de Jéhovah, là, je ne sais pas s'il fait du porte-à-porte tous les samedis dans un an, combien qu'il va faire de convertis? Peut-être un ou deux. Mais si tu travailles de cette manière-là, c'est pas mal plus difficile.
Mm-hmm.
Puis les évangéliques, mais ceux qui font de l'évangélisation aussi, on est confronté à ça. Mais ces gens-là veulent pas descendre sur le plancher des vaches. Ils veulent exploiter nos institutions publiques et notre argent, aussi en passant, pour répandre leurs idées.
C'est ça, parce que vous payez pour ça.
Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ils sont financés. Ils ne travaillent pas pour rien. Ça fait que Ça fait que dans ce contexte-là, ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État, ça devient une fiction. C'est évidemment, on se sépare, on éloigne tout ce qui est judéo-chrétien, mais il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, parce qu'ils ont une nouvelle Église. On a des nouveaux, archevêques. Une des questions que je posais à la commission, c'était au Québec, puis dans la majorité des sociétés francophones, autrefois, c'était les archevêques, les curés, qui modelaient, qui formaient la manière de penser puis le comportement des gens. Puis ce que j'ai leur ai lancé, il dit, qui joue ce rôle idéologique aujourd'hui au Québec puis dans nos sociétés francophones? Qui modèle, qui forme la manière de penser, le comportement des gens? Faut se poser la question, qui joue ce rôle idéologique-là? Fait qu'on peut le voir, là, que les médias jouent un rôle très puissant, là. Je dirais que c'est un des dominants. La culture populaire aussi modèle, juste entre autres, les ventes de livres de Harry Potter. Ça fit beaucoup dans cette conception-là postmoderne que, l'occultisme, là, il n'y a pas de raison de cracher là-dessus, là, parce que les gens ont soif de spirituel, mais de n'importe quel spirituel. Fait que l'occulte devient quelque chose de très marketing. Et puis, le post-moderne, les idéologies issues du siècle des Lumières étaient très matérialistes. Ils rejetaient tout ce qui était surnaturel, donc l'occulte s'était rejeté aussi. Mais les post-modernes sont ouverts à tous les phénomènes religieux, l'occulte inclus. Fait que ça, en tout cas, ça fait partie de la patente.
Ça fait partie du package.
Ouais.
En tout cas, encore une fois, merci.
Parfait.
Je voudrais remercier nos auditeurs qui nous ont écoutés pendant quelques heures. Je vous invite à communiquer avec Paul par Samizdat, son site. Ça nous a fait plaisir de le recevoir aujourd'hui. Je vous invite pour la prochaine fois. À Clos-Clos reçoit. Bye-bye!